La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui mardi, c'est le deuxième moment de notre série consacrée à Alexandre Dumas. Dans une émission proposée par Chloé Casmarek, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Didier Pinault, David Jacubo-Viez et Clément Berman. Mon premier désir est illimité, ma première inspiration va vers l'impossible, écrivait Dumas dans ses mémoires. Et il est vrai que son existence est constituée de bien des dépassements. Une vie faite de triomphes, de barricades, de richesses et de quasi-misères. Une vie de revanche aussi, celle d'un mulâtre dont le père général avait été dégradé par Napoléon. Après une carrière pourtant éclatante, comme nous l'a raconté hier Julien Selmini, dans une émission à retrouver en podcast. Jeudi, nous reviendrons sur la figure du mousquetaire que Dumas a largement contribué à édifier dans l'imaginaire collectif. Nous parlerons également de la forme du feuilleton, si présente déjà dans la littérature du XIXe siècle et chez Dumas également, évidemment. Nous le ferons avec Mathieu Letourneux, professeur de littérature à l'Université de Nanterre. Enfin, demain, nous tenterons de faire un panorama de l'œuvre avec celui que l'on appelle parfois Monsieur Dumas, c'est-à-dire Claude Schoep, auteur notamment du Dictionnaire Dumas, mais aussi de nombreux autres ouvrages sur l'auteur des Trois Mousquetaires. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du théâtre de Dumas, nous sommes en compagnie de Sylvain Léda, professeur de littérature française à l'Université de Rouen, auteur d'une biographie de Dumas en 2014 dans la collection Folio Biographie, et également auteur de nombreuses présentations et préfaces de ses œuvres théâtrales. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
C'était une agitation, un tumulte, une effervescence dont on se ferait difficilement une idée aujourd'hui. Il y avait là des mines étranges et farouches, des moustaches en croc, des royales pointues, des cheveux mérovingiens ou taillés en brosse, des pourpoints extravagants, des habits à revers de velours rejetés sur les épaules, des chapeaux de toutes les formes, excepté bien entendu de la forme usuelle. Les femmes, un peu effarées, descendaient de voitures, parées à la mode du temps, avec leurs coiffures à la girafe, leurs hauts peignes d'écailles, leurs manches à gigot et leurs jupes courtes, laissant voir des souliers à cothurnes. Parfois la foule s'ouvrait et donnait passage à quelques jeunes maîtres déjà célèbres, poètes, romanciers ou peintres, vers qui les mains amies se tendaient. Des groupes nombreux stationnaient sur le boulevard et ne pouvant avoir de place, regardaient entrer les favorisés. Théophile Gautier.
Et oui, Théophile Gautier qui racontait dans cet article de 1867, la reprise de la pièce Antony de Dumas dans une lecture ici de Jean-Luc Debatice. Bonjour Sylvain Léda.
Bonjour.
La première d'Antony qui a donc été, on vient de l'entendre dans ce compte-rendu, un succès extraordinaire, comme d'ailleurs la plupart, beaucoup des pièces d'Alexandre Dumas.
Oui, c'est très intéressant que vous commenciez par Antony, parce qu'Antony, c'est un drame contemporain, c'est-à-dire l'intrigue d'Antony se déroule en 1831, au moment où la pièce est créée, à la Porte Saint-Martin, en mai 1831. C'est l'histoire d'un bâtard, hein, Antony, d'un garçon sans foi ni loi, qui est un marginal, dans lequel Dumas projette beaucoup de choses personnelles, hein, beaucoup d'éléments de sa vie passionnée. Et Antony signe le triomphe d'un nouveau genre théâtral, qu'on appelle alors le drame en habit noir. Oui. Le drame en habit noir, c'est le reflet d'une génération ardente, désenchantée, que Dumas met en scène dans ce drame tout à fait extraordinaire.
Alors il disait que c'est une scène d'amour, de jalousie et de colère en 5 actes que cette pièce, Anthony.
Oui, amour, jalousie, colère, et je dirais tout ça résumé dans l'extraordinaire dernière scène du drame. Amour passionné d'Anthony pour Adèle d'Hervé, qui s'est mariée, et Anthony revient dans sa vie, fait irruption d'une manière extraordinaire, en provoquant un accident de carrosse. Il se fait transporter chez elle blessé pour lui parler. Et il revient comme ça dans sa vie et elle se rend compte, Adèle, qu'elle ne peut pas se passer de lui non plus, qu'il y a une passion irrépressible entre eux. Et Adèle finit par céder aux avances d'Anthony, mais doit protéger son honneur, préserver son honneur. Et elle incite finalement son amant tourmenté à lui donner la mort dans la dernière scène, et Anthony, dans un geste extraordinairement symbolique, la poignarde. Et sur le manuscrit de la pièce, Dumas a écrit « Tue-moi, T-U-moi, tue-moi », en oubliant le « e », il tue Adèle, jette le poignard au milieu de la scène, et là, le mari entre, et il réplique « Elle me résistait, je l'ai assassinée », feignant ainsi un viol, alors que c'est un crime consenti, un crime d'amour consenti, qui lui promet aussi à lui la mort sur l'échafaud.
Alors tous les hommes, dit-on, s'identifiaient à Anthony et toutes les femmes auraient voulu être Adèle. C'est le romantisme dans toute sa splendeur, Sylvain Lédard.
Oui, c'est aussi un peu le cliché du romantisme qui s'est construit. Et d'ailleurs, c'est intéressant que 36 ans plus tard, Théophile Gautier reprenne ces motifs-là. Effectivement, la pièce est une pièce qui a fait date, qui a marqué les contemporains, parce qu'effectivement, cet investissement total dans la passion, mais pas seulement, c'est une grande pièce politique, Anthony, sur la place des jeunes dans la société. Ce qui fait que beaucoup de jeunes hommes se sont identifiés à Anthony, on se coiffait comme Anthony, on s'habillait comme Anthony, on prenait des airs sombres à la Anthony. Effectivement, Adèle d'Hervé, prisonnière de cette situation de femme mariée, donc mineure aux yeux de la loi, selon le code Napoléon, une femme prisonnière de sa situation, qui finalement se libère par la passion et par la mort. Effectivement, ce sont des personnages auxquels les gens ont eu envie de s'identifier.
Alors vous êtes spécialiste du romantisme et vous dites, à propos de deux autres pièces que vous avez préfacées, de Dumas, La Tour de Nesle et Henri III et sa cour, que le drame romantique est historique. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il est forcément historique? Qu'est-ce que vous entendez par cette formule?
Il est historique dans la mesure où il met en scène l'histoire, avec un grand H, que ce soit l'histoire du passé, les siècles passés. On pense le présent par le passé, mais il est historique aussi quand il met en scène le monde contemporain. C'est-à-dire que c'est une réflexion sur le cours de l'histoire et sur la manière dont l'individu agit, en général vainement, sur le cours des événements, sur le cours de l'histoire. Et on le voit très bien dans La Tour de Nesle et Henri III et sa cour, ce sont des drames historiques, ce qu'on appelait aussi des drames à costume et à décor reconstituant une époque passée, qui permettent à Dumas de poser une réflexion politique sur le pouvoir, sur la violence d'État, sur des grandes questions qu'on se pose au lendemain de la Révolution de juillet.
Mais est-ce que ça constitue une caractéristique obligée, d'une certaine façon, du romantisme ?
J'ai envie de dire que c'est une des caractéristiques majeures du théâtre romantique notamment, que de représenter l'histoire. Prenez les grands drames de Hugo, Lucrèce Borgia, Hernani, Marion Delorme sous le règne de Louis XIII, ou prenez le grand drame de Musset, Lorenzaccio, qui se déroule à Florence au XVIe siècle. C'est une des caractéristiques du théâtre romantique que de représenter le passé, une période souvent instable, voilà, pour montrer un petit peu les dangers aussi de la politique et du pouvoir.
En tous les cas, c'est ce que fait Dumas, mais il n'est pas le seul, c'est ce que font aussi un certain nombre de dramaturges à son époque. Quelle serait au fond sa spécificité parmi les autres auteurs dramatiques de cette époque-là ?
Sa spécificité, c'est tout d'abord une capacité à faire revivre des personnages du passé en leur donnant une chair et un souffle que la plupart des dramaturges aujourd'hui oubliés ne parviennent pas à faire. Hugo et Dumas réussissent, je cite les deux plus grands parce que ce sont les deux plus grands, réussissent à donner vie à des personnages du passé en leur donnant une psychologie, des pulsions, en montrant aussi comment, sans savoir que l'inconscient existe, enfin sans l'avoir théorisé, comment les pulsions inconscientes font agir les grands de ce monde, oui. Les rois, les reines, etc.
Et ça, il le fait en ajoutant de l'inconscient, en ajoutant une vision qui lui est propre et qui fait fi, bien souvent, de la réalité historique, Sylvain Léda.
Alors oui et non. On a tendance à vite considérer Dumas comme étant un grand inventeur en racontant n'importe quoi. Dumas se documente sur les événements qu'il décrit. Hein. Pour Henri III et sa cour, par exemple, il lit scrupuleusement le journal de Pierre de l'Étoile, il se renseigne. Donc il a à la fois une lecture documentaire et une imagination fertile et foisonnante. Donc la rencontre de ces deux matériaux de création lui permettent d'inventer, réinventer des personnages qui ont existé, comme Catherine de Médicis, par exemple, en lui donnant des couleurs, en l'enténébrant, en lui donnant une couleur plus sombre qu'elle n'avait peut-être. Hein. Donc il y a une part de vérité, et puis il y a cette imagination qui reconstruit, qui resculpte le personnage.
On va écouter un extrait justement d'Henri III, interprété ici par Jacques Hézer et François Beaulieu.
Mon père, un seul mot, même pelle. Vous vous taisez, mon père ? Malédiction. Or, faites qu'elle m'aime. On dit que votre art a des ressources inconnues et certaines, des breuvages, des filtres. Quels que soient vos moyens, je les accepte. Du style compromettre ma vie en ce monde et mon salut dans l'autre. Je suis riche. Tout ce que j'ai est à vous, de l'or, des bijoux. Or, votre science peut-être méprise ces trésors du monde. Eh bien, écoutez-moi, mon père. On dit que les magiciens, quelquefois, ont besoin, pour leurs expériences cabalistiques, du sang d'un homme vivant encore. Tenez, mon père, voici mon bras. Engagez-vous seulement à me faire aimer d'elle.
Mais es-tu sûr qu'elle ne t'aime pas ?
Que vous dirais-je, mon père ? Jusqu'à l'heure du désespoir, ne reste-t-il pas au fond du cœur une espérance sourde ? Oui. Quelquefois, j'ai cru lire dans ses yeux lorsqu'il ne se détournait pas assez vite. Mais je puis me tromper. Elle me fuit. Et jamais je ne suis parvenu à me trouver seul avec elle.
Et si enfin tu réussissais ?
Cela étant, mon père, son premier mot m'apprendrait ce que j'ai à craindre ou à espérer.
Eh bien, viens. Et regarde dans cette glace. On l'appelle le miroir de réflexion. Quelle est la personne que tu désires y voir ?
Elle, mon père !
Pendant qu'il regarde, l'alcôve s'ouvre derrière lui et laisse apercevoir la duchesse de Guise, endormie.
Regarde !
Dieu ! Vrai Dieu ! C'est elle ! Elle, endormie ! Oh, Catherine ! Catherine !
La compagnie des auteurs sur France Culture. Je vous voyais écouter attentivement cet extrait. Qu'est-ce qui vous inspire, Sylvain Léda ?
Bien déjà, il m'inspire le sens que Dumas a de la scène. Parce qu'effectivement, là, on a une scène entre un jeune amoureux qui désire savoir, qui consulte Ruggieri, un astrologue, l'astrologue de Catherine de Médicis, pour savoir si la duchesse de Guise l'aime. Effectivement, elle l'aime, ça causera son malheur. Mais ce qui est absolument génial dans cette scène, c'est la manière... cette fantasmagorie qui fait apparaître derrière un rideau la duchesse de Guise qui a pris un narcotique et qui est endormie. Donc ce qui me frappe dans cette scène, c'est à la fois l'intrusion du fantastique, finalement, dans une histoire d'amour historique, et la manière dont Dumas sait combiner ce fantastique à l'espace scénique, la manière dont il découvre le rideau, comme il lève le voile sur les sentiments des personnages. Donc c'est très beau, c'est très réussi, avec effectivement le côté un petit peu daté peut-être de ce théâtre, hein, dans les exclamations des personnages, mais je trouve ça très, très subtilement fait.
Tiens aussi peut-être à l'interprétation qui n'est pas récente. L'irruption du fantastique, l'irruption du mélodrame aussi, il mélange, et c'est peut-être ce qu'il apporte aussi, c'est peut-être ce qui fait la modernité de Dumas, des inspirations qui viennent du roman gothique, du roman historique, qui viennent de la tragédie antique et classique, mais qui peuvent également venir du mélodrame. On a un sentiment très syncrétique quand on lit comme ça le théâtre de Dumas.
Tout à fait. Dumas a une culture tous azimuts. hein, c'est-à-dire qu'il lit Corneille, Racine, Pixérécourt, les auteurs de mélodrames du 19e siècle. Il va voir des féeries, il connaît la comédie de Molière sur le bout des doigts. Donc effectivement, il y a un syncrétisme dans son théâtre. Il est capable de convoquer des ressorts dramaturgiques de genres dramatiques différents pour créer une œuvre qui finalement reste très personnelle. Effectivement, dans la Tour de Nesle ou dans Henri III et sa cour, il y a des passages mélodramatiques, il y a des passages comiques. Hein, donc c'est le mélange des genres qu'on prête en général au théâtre romantique. C'est chez Dumas une très large bibliothèque théâtrale mise en œuvre, mise en mouvement dans son propre théâtre.
Oui. C'est une pièce en prose.
Oui.
Ça aussi, c'est peut-être un aspect de la modernité chez Dumas.
Alors oui, sauf qu'un an plus tôt, Dumas avait proposé une pièce en vers à la Comédie Française, puisque la tradition était de jouer des tragédies en vers, des tragédies classiques et néoclassiques, mais cette pièce Christine avait été refusée. Donc Dumas s'est tourné vers la prose. C'est assez audacieux, hein, comme geste artistique, d'écrire un drame en cinq actes et en prose. Il a repris certains modèles de la tragédie classique, mais dans une forme en prose, hein, avec un style tantôt noble, élevé, et un style tantôt comique et ludique. Et cette pièce a été acceptée par la censure, et ce qui a donné lieu à cette première triomphale d'Henri III et sa cour en février 1829.
Alors parlons peut-être un peu plus de la pièce elle-même, qui s'élabore à partir du récit des amours tragiques de Saint-Mégrin. Saint-Mégrin qui est un mignon d'Henri III, assassiné par les hommes du duc de Guise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de ce sujet, Sylvain Léda ?
Déjà, la période des guerres de religion, c'est-à-dire de la mort d'Henri II jusqu'à l'édit de Nantes, et même au-delà, hein, jusqu'à la mort d'Henri IV, fascine les romantiques et fascine Dumas. Dumas choisit justement une période plutôt calme, puisque je crois que l'action se situe dans les dernières années du règne d'Henri III, avant l'assassinat du roi. Et ce que veut montrer Dumas, c'est le pouvoir des clans, le clan des Guises, par exemple, hein, sur la politique royale. Il montre un roi plutôt faible, plutôt efféminé. Bon, ça, c'est le cliché qu'on a d'Henri III. Hein. On sait bien que c'est un cliché et que c'est globalement faux. Et il veut montrer aussi comment s'intriquent les motivations intimes, sentimentales et les motivations politiques. Il noircit le trait du duc de Guise, dont il fait un personnage absolument monstrueux, cruel. C'est lui qui fait assassiner effectivement Saint-Mégrin au dénouement. Et on parlait tout à l'heure de la tragédie. Dumas propose une solution pour le dénouement de son drame qui est tout à fait intéressante historiquement, esthétiquement et politiquement. C'est-à-dire qu'il ne fait pas tuer Saint-Mégrin en scène. Saint-Mégrin est dans la rue. Mmh. Mais la duchesse de Guise, elle, est sur scène. Et Toutes les affres, la souffrance de Saint-Mégrin est exprimée par la duchesse de Guise qui, elle, sait que son amant va mourir. Et pour l'achever, le duc de Guise laisse tomber le mouchoir de la duchesse, de sa femme, en disant « étrangle », enfin il disait à peu près ça, « étrangle-le avec ce mouchoir, la mort lui sera plus douce ». Donc il trouve des raffinements qui correspondent bien à l'idée qu'on se fait des mignons, de la cour du roi Henri III, en faisant des ressorts tragiques. Donc c'est une pièce historique qui se prétend comme étant un drame historique se fondant sur des sources documentaires précises, mais dans laquelle Dumas fait preuve d'une grande imagination, d'une grande inventivité scénique.
Et alors, sur précisément le rôle de ces mignons, quel est le rapport, parce qu'il y a toujours des correspondances, hein, entre le moment où il écrit, la période historique durant laquelle Dumas écrit, et puis la période historique qu'il explore, quel vous semblerait être finalement le rôle de cette espèce de cour autour d'Henri III, et comment peut-on, ou comment pouvait-il faire des correspondances avec sa période à lui ?
Alors, les correspondances ne sont pas, à mon avis, des renvois précis, mais plutôt une représentation du pouvoir royal défaillant. Mmh. On est en 1829, c'est la fin de la Restauration, il reste un an et demi à Charles IX, pour régner. Dumas est plus proche des Orléans que des Bourbons, donc je pense qu'il y a Henri III et sa cour est une pièce critique sur le pouvoir royal, sur la violence d'État, sur la manière dont les princes sont parfois gouvernés par leurs ministres ou par leurs mignons. Hein. Donc c'est aussi une sorte de mise en cause ou de mise en garde des rois qui suivraient trop les influences extérieures. Puis il y a le rôle de Catherine de Médicis qui est fondamental dans la pièce de Dumas, qui est en rivalité avec son fils, qui est instigatrice de plans dans l'ombre. C'est l'image sombre de Catherine de Médicis contre laquelle ira Honoré de Balzac 3 ans plus tard dans le livre sur Catherine de Médicis.
Il y a du Shakespeare dans cette pièce.
Oui. En 1827, Dumas, en septembre 1827, Dumas assiste aux représentations de Shakespeare à Paris et il est, comme Musset, comme d'autres, bouleversé par ce qu'il voit. Il est bouleversé par Shakespeare, il l'avait déjà lu dans des traductions parues à partir de 1821, mais là il voit les acteurs anglais jouer. Et les acteurs anglais, contrairement aux acteurs français, tombent par terre, poussent des cris, ne respectent aucune bienséance, aucune convenance. Et donc, Dumas a l'impression de découvrir un théâtre en liberté et s'en inspire grandement pour toute sa vie. Il sera marqué par Shakespeare et
par
son théâtre.
Par beaucoup d'auteurs anglais, on pense à Byron, on pense à Walter Scott
évidemment. Walter Scott, qui est un modèle romanesque, un modèle dramaturgique, mais Shakespeare quand même est vraiment le point autour duquel se cristallise la passion de Dumas pour le théâtre.
Passons maintenant à la Tour de Nesle.
Le fleuve vient de jeter encore un noyer sur sa rive et le peuple se lasse de cette étrange pêche.
Ce sont autant d'anathèmes qui retombent sur ce damné Marigny qui est chargé de la sûreté de la ville. Ma foi, les morts seront les bienvenus si nous pouvons étouffer le premier ministre sous un tas de cadavres.
Il se passe d'étranges choses. Personne de vous n'a vu mon frère, messieurs ?
Je sais que si le roi n'y prend garde, mes seigneurs, il perdra par eau le tiers de sa population la plus noble et la plus riche. Quel diable de vertige pousse donc nos gentilshommes à pareille fin ? Bonne au plus pour les jeunes chats et les manants.
Oh, messeigneurs, iriez-vous croire que ceux qui sortent morts de la Seine y descendent volontairement vivants ? Non pas.
À moins qu'ils n'y soient menés par les démons et les feux follets, je ne vois pas trop.
La rivière est une indiscrète qui ne conserve pas les secrets qu'on lui confie. On a plutôt creusé une tombe dans l'eau que dans la terre. Seulement l'eau rejette et la terre garde. Depuis l'hôtel Saint-Paul jusqu'au Louvre, il y a bien des maisons qui baignent leurs pieds dans l'eau et bien des fenêtres à ces maisons.
Le seigneur de Savoisy a raison. Et la tour de Nesle pour sa part...
Oui, je suis passé à 2 heures du matin au pied du Louvre et la tour de Nesle était brillante. Les flambeaux couraient sur ses vitraux. C'était une nuit de fête à la tour. Je n'aime pas cette grande masse de pierre qui semble, la nuit, un mauvais génie veillant sur la ville. Cette grande masse immobile, jetant par intervalles du feu de toutes ses ouvertures comme un soupirail de l'enfer, silencieux sous le ciel noir, avec sa rivière bouillonnante à ses pieds. Si vous saviez ce que le peuple raconte...
Messieurs, vous oubliez que c'est une hôtellerie royale.
D'ailleurs, le roi arrive demain. Et le roi, vous le savez, messieurs, n'aime pas les nouvelles qu'il n'a pas faites lui-même. N'est-ce pas, monsieur de Marigny ?
La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait de La Tour de Nesle par la Société des comédiens français en 1975. On parlait à l'instant de l'atmosphère sulfureuse qui régnait à la cour d'Henri III, mais là, les amours dépeintes dans La Tour de Nesle et les crimes aussi ne sont pas moins scandaleuses, Sylvain Léda, bien au contraire.
Bien au contraire, La Tour de Nesle est une pièce qui a fait scandale parce que elle représente la... le stupre et la luxure d'une reine, Marguerite de Bourgogne, qui marque la fin des Capétiens, donc puisque l'action se déroule en 1314. Et là, Dumas, il va fort.
On peut raconter un petit peu.
Oui, donc c'est l'histoire de Marguerite de Bourgogne qui toutes les nuits s'adonne à des orgies. On voit tous les matins des cadavres dans la Seine tomber de la tour de Nesle. Et on se dit qu'il s'y passe des choses abominables, qu'il y a Satan dans cette tour, un vampire, que sais-je. Et en fait, c'est Marguerite de Bourgogne qui reçoit ses amants et qui les fait tuer au petit matin pour ne pas être découverte et ne pas être accusée.
Et qui les fait jeter donc
par
la fenêtre.
Et qui les fait jeter par la fenêtre dans la Seine.
Pourquoi pas ?
Pour éviter que la rumeur publique ne se propage et pour garder un semblant de vertu.
Oui, bien entendu. Donc, ce qui pose problème, c'est qu'évidemment, Philippe le Bel, lui, n'est pas très content. Ça n'est pas une très belle réputation à la famille royale.
Et donc, il diligente une enquête et il envoie le personnage de Savoisy surveiller ce qui se passe dans cette tour. Or, surgit un certain Buridan, un héros de grand chemin qui se révèle en vérité être un ancien amant de Marguerite. Or, Marguerite a fait venir dans la tombe deux jeunes damoiseaux charmants, Philippe et Gauthier d'Aulnay, et elle en fait tuer un premier, Philippe, sans avoir consommé la relation. Du moins, Dumas laisse quand même une petite porte à la vertu et à l'honnêteté. Et il y a le second, Gaultier, dont elle est amoureuse, enfin, vers qui elle a des sentiments, elle est attirée par ce jeune homme. Et on découvre progressivement que Buridan était son amant et que Philippe et Gaultier sont ses fils. Donc, non seulement il y a les orgies de la reine, mais il y a l'inceste. Et donc là, ça devient vraiment totalement immoral. La dépravation de la reine est insupportable. Et finalement, elle fait tuer Gaultier et découvre qu'il est son fils. Et je pense que Victor Hugo s'en souviendra quand il écrit Lucrèce Borgia, quand il fait jouer Lucrèce Borgia un an plus tard.
Alors là encore, qu'y a-t-il d'historique, de documenté dans l'histoire de la Tour de Nesle ? Quel est le rapport à l'histoire ici ?
Alors le rapport à l'histoire ici, il est quand même assez déformé. Alors on sait que ces reines, effectivement, ont commis des orgies, enfin, se sont livrées à quelques turpitudes. Elles ont, d'ailleurs, Marguerite de Bourgogne a été enfermée en Normandie, elle est morte en prison.
Un an après,
oui. Et les deux jeunes gens, Gauthier et Philippe, eux ont été exécutés, ils les ont torturés, ils les ont décapités, la tête a été mise sur des pics, on les a écartelés, on leur a coupé les parties génitales. Enfin, l'histoire réelle est pire que la pièce de théâtre. Mais ce qui est très intéressant par rapport à la Tour de Nesle, qui est jouée en juin 32, c'est que la pièce est programmée dans une période vraiment de grande inquiétude collective. Vous savez qu'une épidémie de choléra à Paris en avril 1832. Dumas d'ailleurs est atteint du choléra, mais comme il est très solide, il s'en sort, il s'en remet. Donc ça s'inscrit dans une ambiance très très inquiète, d'autant plus qu'en juin éclatent des émeutes dans Paris à la suite des funérailles du général Lamarque. Donc là on est en pleine période instable sur le plan civil, sur le plan politique, il y a beaucoup d'inquiétudes et cette pièce... C'est l'exact reflet d'une inquiétude collective. Donc elle sert un petit peu de, comment dire, elle a une vertu propitiatoire. C'est-à-dire que le public projette dans cette pièce toutes ses inquiétudes liées à la maladie, à la mort, au danger qui pèse sur Paris. Parce que Paris est un des personnages principaux de la pièce.
Tout comme la tour de Nesle est un des personnages à titre architectural, mais enfin aussi comme en effet voilà le lieu qui représente toutes ces orgies et qui représente le mal.
Oui, alors on ne sait même pas si cette tour de Nesle existait au moment des faits en 1314, mais Dumas effectivement choisit cette tour qui est un décor gothique, l'intérieur de la tour circulaire, le côté vraiment sombre du lieu. Effectivement, dès qu'on disait « Ah, c'est la tour de Nesle », le public de l'époque réagissait, et d'ailleurs... 4 ans plus tard, Musset, dans une de ses comédies qui s'intitule « Il ne faut jurer de rien », fait dire au héros masculin à propos de la jeune fille qu'il doit épouser « Est-ce qu'elle a vu la tour de Nesle ? A-t-elle lu les romans de Monsieur de Balzac ? A-t-elle vu la tour de Nesle ? Condition obligée pour l'épouser. Sinon, ce n'est pas une jeune fille à la mode.
Oui. » Et alors évidemment, on se repose là aussi la question du dialogue entre le présent de l'écriture et le passé que raconte Dumas. Parce que l'inquiétude, elle est peut-être aussi politique dans ces années-là.
Oui, le désenchantement qui suit les Trois Glorieuses, le 1830, vient très vite. Les premiers mois, après les premiers mois d'euphorie, c'est souvent comme ça. Il y a quelques mois d'euphorie après un nouveau pouvoir et puis vite ça retombe. Donc là, c'est le cas pour Louis-Philippe. En 1832, c'est une année difficile sur le plan économique, sur le plan politique. Il y a des émeutes. C'est d'ailleurs là que Hugo situera l'épisode des barricades dans Les Misérables. Donc c'est vraiment une année charnière, 32. Donc effectivement, la pièce de Dumas reflète cette inquiétude, même si elle est plongée dans un lointain passé. On est à Paris, dans le cœur de Paris, de ce qui est le vieux Paris, qui existe encore en 1832. Les travaux du baron Haussmann, c'est à la fin des années 50. Donc on a encore, le public peut encore s'imaginer ce que pouvait être ce vieux Paris, même s'il y a déjà eu des travaux. Donc la pièce, les gens qui vont voir la tour de Nesle, quand ils sortent de la porte Saint-Martin, ils sont dans le décor, au fond, que peint Dumas. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire de la Tour de Nesle, c'est aussi le rapport de Dumas à l'écriture, c'est-à-dire que c'est une pièce, enfin c'est un récit, une pièce au début de Gaillardet, que Dumas a reprise, etc. Et il s'est approprié un texte, il a vampirisé un texte qui, au départ, n'était pas de lui, il en a fait un chef-d'œuvre.
Comme il le fait assez habituellement. Un mot peut-être des sources, il s'était documenté quand même assez sérieusement, et il avait lu notamment très profondément l'histoire de France de Louis-Pierre Anquetil. En fait, il y a quoi, quelques ouvrages, trois ou quatre, qui forment un petit peu la base documentaire de cette pièce.
Oui, alors cette pièce, elle est quand même fondée sur une légende, hein, et c'est une légende qui court depuis la fin du XVe siècle. Bon, on cite Villon, puis on peut citer aussi les historiens du XVIe, puis comme ça jusqu'au début du XIXe, il y a des notices sur Marguerite de Bourgogne, plus ou moins légendaires, et Dumas a pris chez Anquetil, en effet, mais où tout n'est pas exact, et dans les notices de dictionnaire, dans la légende, hein, c'est une pièce quand même, ce que Dumas appelle une pièce extra-historique, c'est-à-dire un peu en dehors de l'histoire.
Allez, on va continuer de parler du théâtre de Dumas avec vous, Sylvain Léda, dans quelques minutes. Mais tout de suite, c'est le moment de la chronique de Jacques Nerson.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour Jacques.
Bonjour Mathieu.
Alors vous qui êtes spécialiste de théâtre, vous avez écouté avec une oreille encore plus fine que d'habitude ce qui a été dit dans la première partie de cette émission par Sylvain Léda. Un commentaire peut-être ?
Ah bah évidemment, je suis très intéressé. J'adore le théâtre de Dumas. Je crois que quand on aime le théâtre, on ne peut qu'aimer le théâtre de Dumas. À propos de la Tour de Nesle, je voudrais juste rappeler, ça a l'air très insignifiant, mais c'est très répandu. Il y a une réplique de la Tour de Nesle qui est utilisée pratiquement tous les acteurs de France quand ils sont impatients d'être servis dans un restaurant. C'est Hola, tavernier du diable.
C'est devenu... Et ça marche.
C'est un signe de reconnaissance. Si vous entendez ça, vous êtes sûr que c'est des gens de théâtre qui prononcent la réplique.
Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de la place de l'auteur au théâtre qui vous semble dangereusement remise en cause. C'est cela, Jacques ?
Ben oui, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'Alexandre Dumas a eu beaucoup de chance parce qu'il a été roi de théâtre, mais roi de théâtre dans une époque où le théâtre était roi, et c'est-à-dire que où il régnait sans concurrence du cinéma, de la radio, de la télévision et encore moins d'Internet. C'était le seul divertissement pratiquement, en tout cas vivant, à part la lecture. Donc les Français étaient de grands consommateurs de spectacles, et le théâtre du coup était le meilleur moyen de faire fortune pour un homme de lettres. C'est ce qui s'est...
Encore aujourd'hui.
Plus le théâtre, c'est le cinéma maintenant. Alors que à l'époque, c'était le théâtre. Et d'ailleurs, ils s'y sont tous essayés. Quand vous aviez votre livre, votre roman adapté au théâtre, c'était comme aujourd'hui. Effectivement, si vos droits sont achetés par un producteur de cinéma, c'était le jackpot. C'est pour ça que tous les écrivains du 19e ont tenté leur chance vraiment au théâtre, avec plus ou moins de succès. Vous avez dit effectivement Hugo, Dumas, Musset, avec grande réussite, mais il y a eu des candidats malheureux, Balzac et Flaubert, par exemple, Balzac aurait été tiré d'affaire, on sait qu'il était criblé de dettes, il aurait été tiré d'affaire par un succès au théâtre, malheureusement, il ne l'a jamais obtenu. Et Alexandre Dumas, lui, c'est particulier parce que c'est vraiment un homme de théâtre né, en ce sens que le succès, lui, est d'abord venu par le théâtre. Le feuilleton est venu seulement après. Et non seulement il a ses pièces, mais tous ses romans, pratiquement tous ses romans, ont été adaptés au théâtre.
Ça l'a pas empêché d'être ruiné.
Il s'est ruiné en grande partie à cause du théâtre. C'est-à-dire qu'il avait fait bâtir à ses frais un théâtre absolument magnifique, le théâtre historique, pour y faire représenter les adaptations de la Reine Margot, des Trois Mousquetaires, etc. Et puis, effectivement, il y a perdu sa chemise, comme on dit, mais c'était un homme dépensier. D'ailleurs, notez que dans son château, il y avait un petit théâtre aussi, un petit théâtre privé qu'il avait fait construire. C'est dire la passion qu'il avait pour cet art. Alors évidemment, on ne vit pas du tout à la même époque, et elle est beaucoup moins propice aux auteurs de théâtre. D'une part, parce que, comme on l'a dit, il y a d'autres moyens maintenant de se divertir que le théâtre. C'est souvent des moyens moins chers, et plus confortables. Puis d'autre part, parce que le statut de l'auteur est aujourd'hui remis en cause. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce graffiti qu'on voyait sur les murs de Paris en 1968.
Non, je ne m'en souviens pas.
Mais il a été... Il a été repris et reproduit. La poésie ne sera vivante que lorsque le dernier des poètes aura été pendu. Et en fait, c'est à peu près ce que disait Lautréamont, La poésie doit être faite par tous, non par un. Et c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il est vrai que pour qu'un poète parle, il faut que le reste de la cité se taise. Il faut consentir à ce que le poète parle en votre nom. Or, un mot est apparu qui a fait fleurir et qui est extrêmement dangereux. Il est relativement récent, ce mot, puisqu'il date de l'après-guerre. C'est le mot « créativité ». Et hors créatif, évidemment, chacun de nous l'est. C'est une qualité démocratique en ce sens. Tandis que la création de l'artiste est presque toujours singulière, personnelle et solitaire. Donc il y a forcément une part de
césarisme. Donc vous regrettez la créativité, voilà.
Ben, je pense que c'est l'ennemi de la création. Ah. Et j'y pensais l'autre jour en allant voir un spectacle d'un collectif, le collectif des Chiens de Navarre, et ils jouent un nouveau spectacle qui s'appelle « Jusque dans vos bras », et qui va se jouer au Bouffe du Nord à Paris à partir du 7 novembre. Et bien, moi je suis allé le voir à Douai, à l'hippodrome de Douai, le public était ravi. Mais en fait, on avait l'impression d'avoir de l'eau entre les doigts. C'est-à-dire que c'est un spectacle où il n'y a pas d'auteur, où chacun a écrit son petit sketch, chacun fait son petit numéro à son tour, et au fond, c'est un spectacle sans véritable propos, si ce n'est l'envie de se produire. C'est pas tout à fait suffisant. Et là, vraiment, la pensée coordinatrice de l'auteur manque.
Voilà. Si on veut se faire son avis, on peut aller au Bouffe du Nord pour regarder jusque dans vos bras, c'est jusqu'au 2 décembre. Sylvain Léda, sur cette question, l'auteur finalement aurait disparu, attaqué par les créatifs.
Oui, la mort de l'auteur, c'est une problématique qui concerne pas seulement, je crois, le théâtre, hein, mais une question qu'on se pose pour la littérature d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a disparu, il y a quand même encore des auteurs de théâtre, j'espère. Effectivement, ce que vous disiez, c'est tout à fait juste sur Dumas. Dumas est d'abord un auteur de théâtre avant tout. Et même avant d'être un romancier, avant d'être un journaliste, un auteur de récits de voyage.
Même si on l'a un peu oublié aujourd'hui, parce que même c'est si pas tellement son théâtre dont on parle le plus.
C'est pas son théâtre dont on parle le plus, mais en son temps, il était d'abord connu comme étant un des premiers dramaturges de France. Ce qui est très intéressant dans ce que vous citiez, l'échec de Balzac ou de Flaubert au théâtre, c'est que Dumas, quand il fonde le théâtre historique en février 1847, son idée, c'est de faire jouer ses pièces, ses adaptations de romans, mais de faire jouer aussi les romantiques de sa génération. Et donc, il fait jouer le théâtre de Balzac au théâtre historique. Ça ne fonctionne pas très bien, mais il fait jouer le théâtre de Balzac et il crée des pièces de Musset aussi. Hein. Donc, il a un sens de la générosité théâtrale qui est très fort, même s'il a une très haute conscience de lui comme auteur. Hein.
Alors, on va continuer de parler du théâtre, justement, de Dumas. On va parler en particulier de sa pièce « Kin ».
Tiens, jouons la scène. Nous verrons si tu as du talent pour improviser. Je suis Kin. Tu es toi. Allez, sors. Bien. Entre à présent. Oh non, non, ne relève pas ton voile. Là, c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez ?
Monsieur Kin, je veux jouer la comédie.
Mais non, c'est comme ça. Tu perds toutes tes chances. C'est un vaniteux, tu sais, un écorché qui a l'orgueil à vif. Faut le flatter. Alors recommence, invente.
Je ne suis pas inventé.
Laisse parler ton cœur.
Me voilà donc venu chez lui. Aurais-je le courage de lui dire ce qui m'amène ? Oh mon Dieu, mon Dieu ! Donnez-moi de la force, car je me sens mourir.
Pas mal. Qu'est-ce que vous me voulez ?
C'est sa voix. Excusez mon trouble, monsieur. Il est bien naturel. Et si modeste que vous soyez, vous comprendrez que votre réputation, votre talent, votre génie...
Très bien.
M'effraie plus encore que votre accueil ne me rassure. On vous dit cependant aussi bon que grand. Si vous n'eussiez été que grand, je ne serais pas venu à vous.
Je ne suis pas bon.
Hein ?
Je te dis que je ne suis pas bon.
Vous me le dites pour de vrai ou c'est dans votre rôle?
Je n'en sais rien, je te dis que je ne suis pas bon.
Extrait donc de Keen dans une dramatique, peut-être un peu datée aussi, de 1960. Le texte, lui, n'est pas daté. Il se relit très bien. Je ne sais pas s'il se monte encore beaucoup, Sylvain Léda.
Alors, on monte le Keen de Sartre. Là, c'était Sartre. Hein, c'était la version de Sartre, il me semble. Hein. Sartre qui a toiletté le romantisme de la pièce de 1836. Il s'est monté. Il a eu du succès avec Belmondo. Donc, c'est quand même une des pièces de Dumas qu'on joue encore parce que Sartre lui a redonné une certaine couleur contemporaine.
Mais justement, qu'est-ce qui intéressait Sartre dans cette pièce, selon vous, et qu'est-ce que ça dit de Dumas ?
Alors, ce qui intéresse Sartre, à mon avis, c'est la réflexion existentialiste sur l'acteur, hein, sur la vérité de l'acteur, où va-t-il chercher sa vérité, sur le masque de l'acteur, l'hypocritesse, hein, le masque, comment se construit cette identité factice, réelle. Hein, donc je pense que c'est ces questions que se pose Sartre. Il écrit, il adapte Keen juste après son travail sur Genet. Hein. Donc il y a une réflexion sur l'identité, sur la dualité. Donc je pense que c'est ça qui intéresse Sartre en 1953, mais c'est à la demande de Pierre Brasseur qu'il adapte la pièce. Hein. Donc ça vient d'un acteur.
Parce que Keen, c'est un personnage historique, hein, c'est un acteur anglais qui a donc existé, qui était la star des planches à son époque, qui était le roi du théâtre.
Edmund Keen est mort en 1833, donc il est mort 3 ans avant que Dumas n'écrive cette pièce sur la vie d'Edmund Keen, ou un passage de la vie d'Edmund Keen. Keen, c'est un enfant de la balle qui avait un physique disgracieux au départ, qui était plutôt fait pour faire des acrobaties. Il était très tonique, très sportif, hein, c'était un athlète. Et il était plutôt destiné à jouer des rôles comme Shylock, hein, puisque c'est un acteur anglais. Donc il jouait le répertoire shakespearien, Shylock ou Richard III. Et puis son talent a été tel qu'il a été repéré pour jouer d'autres rôles que les rôles de méchants du théâtre de Shakespeare. Mais c'est une très grande vedette, et quand il se produit à Paris, il déclenche des ovations. C'est un très très grand acteur qui fascine aussi parce qu'il a une vie absolument dissolue, dispendieuse. Il avait avec lui des tigres
scandaleuses,
sexuellement scandaleuses, avec aussi des dépenses faramineuses. Il faisait venir des animaux exotiques, il vivait entouré de félins, etc. Donc je pense que Dumas est fasciné par le personnage et par l'acteur.
Il se reconnaît d'une certaine manière dans ce personnage.
On parlait tout à l'heure du château de Monte Cristo. Dumas, comme Edmund Keen, avait une certaine forme de folie des grandeurs. Hein. Donc je pense que ça lui plaît, cette espèce de démesure absolue de l'acteur génial.
Alors vous avez cette formule que vous pourriez nous expliquer. Vous dites que Dumas invente une conception matérialiste de la génialité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est vrai qu'il est génial, Keen, mais en quoi est-ce une conception matérialiste? Qu'est-ce que le matérialisme, finalement, à part le fait que peut-être qu'il collectionnait beaucoup à la fois des femmes et des objets, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de Keen?
D'abord, je ne me rappelais pas avoir eu cette formule, mais je vais vous l'expliquer. Le matérialisme de Keen, tel que le pense Dumas, se manifeste scéniquement par un rapport aux choses. Hein, le personnage de Keen est attaché, presque de manière irrépressible, aux choses matérielles, à la boisson, aux bouteilles, aux verres, aux tables, aux chaises. Il a un rapport constant à la matière qui le ramène au sol. Ce n'est pas un acteur qui va vers le sublime, mais qui tire vers le grotesque. Donc c'est un grotesque matérialiste dans la perception que Dumas se fait du personnage. Hein. Il le ramène à des choses très prosaïques. On ne voit pas Keen dans son génie d'acteur dans la pièce de Dumas. On le voit plutôt dans son quotidien de bagarreur, puisqu'il se bat dans une taverne, dans son quotidien de séducteur, dans son rôle ambigu avec les femmes. Il est constamment ramené à sa matière humaine. Hein, c'est pour ça que j'ai employé cette expression, et c'est de là qu'il puise son génie.
Et est-ce qu'il n'y a pas cette idée que pour être un créateur, il faut aussi côté un peu fou, ce côté désordonné, égocentrique, dans lequel on pourrait retrouver tout à fait la personnalité de Dumas. Est-ce qu'il n'essaie pas d'expliquer ça aussi ou de montrer ça?
Le sous-titre de la pièce, c'est « Désordre et génie ». Donc sans génie, sans désordre, pas de génie. Il faut une certaine forme de désordre, il faut un excès quelconque hein, pour s'évertuer, pour s'éprouver. Et je pense que Dumas avait cette conception-là de l'artiste, de l'acteur, lui qui fréquentait beaucoup les actrices et les acteurs. Et dans ce qu'il essaie de dire dans Keane, c'est que c'est le désordre de Keane qui fait son génie et que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est un désordre qui est même visuel sur la scène. Hein. Oui. Ça part dans tous les sens, les tables et les chaises. Donc, il y a effectivement besoin d'aller dans les limites, au-delà des limites même, pour trouver l'essence de son génie. Et c'est d'ailleurs Frédéric Lemaître, le grand Frédéric Lemaître, l'un des plus grands acteurs du 19e siècle, qui crée le rôle et qui écrit en collaboration avec Dumas, qui suggère à Dumas des jeux de scène pour montrer comment représenter le génie à travers la vie d'un acteur.
Donc c'est une pièce qui est aussi...
Métathéâtrale.
Oui, un hymne au théâtre et une réflexion sur la place du théâtre et la place du comédien aussi, et le rôle du comédien dans la société.
C'est une pièce très importante dans la carrière de Dumas, sur le plan de la réflexion effectivement de ce qu'est le théâtre. Hein. Le théâtre pour Dumas c'est central, ce n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, c'est une façon d'être au monde. Mm-hmm. Et l'exemple de Keane, aidé par Frédéric Lemaître, lui permet d'incarner et d'offrir cette pièce au public pour que le public réfléchisse aussi à ce qu'est ce génie de l'acteur et ce qu'il apporte à la communauté, à la collectivité.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons du théâtre d'Alexandre Dumas avec vous, Sylvain Léda. On n'a pas encore parlé de La Reine Margot, alors là aussi c'était d'abord un roman et puis c'est devenu ensuite seulement une pièce de théâtre.
Oui, La Reine Margot est un roman publié en 1945 et transformé en pièce de théâtre pour l'ouverture du théâtre historique en février 1847.
Donc son théâtre à lui.
Son théâtre, c'est-à-dire son rêve, avoir un lieu à lui pour faire représenter ses pièces et celles de ses camarades romantiques. Donc La Reine Margot, effectivement, est un événement théâtral de la fin de la monarchie de Juillet et Dumas adapte son roman en supprimant des éléments, évidemment, très nombreux éléments, et puis en ajoutant d'autres, et en montrant les personnages en chair et en os de cet événement majeur de l'histoire de France, qu'est la Saint-Barthélemy et le mariage de la reine Margot avec Henri de Navarre.
Là aussi, ça a été un succès phénoménal.
Ça a été un grand succès, hein, parce que la pièce avait été montée dans des décors assez fastueux, la troupe était composée d'acteurs de talent, et la pièce, l'histoire de la reine Margot est en elle-même passionnante, hein, puisque c'est la combinaison d'un massacre collectif, d'un mariage arrangé avec des personnalités extrêmement fortes, dont d'ailleurs Patrice Chéreau a su tirer toute la substance, hein, il me semble, dans son film. Le film de Chéreau est très shakespearien, il est très dumasien aussi. Hein. Chéreau avait bien saisi justement toute la violence qu'il y a dans La Reine Margot, parce que c'est une pièce très violente, La Reine Margot.
Et puis, c'est un film à grand spectacle, et on peut dire aussi que La Reine Margot, c'est une pièce à grand spectacle, Sylvain Léda.
Oui, le théâtre de Dumas, en général, est un théâtre spectaculaire, un théâtre pour l'œil, pour la réjouissance du regard. C'est un théâtre à grand spectacle, construit en tableau dramatique, donc avec des décors à chaque fois qui sont là pour sidérer le public, le fasciner. Hein, donc il y en a pour les oreilles, pour les yeux, pour le cœur.
Oui. Et alors le sujet, peut-être pourrait-on le résumer ainsi, c'est la démence autodestructrice qui s'empare des gens de pouvoir. Là aussi, on est dans Shakespeare.
Oui, le Charles IX de la reine Margot a une petite ressemblance avec Richard III. C'est la démence d'un roi qui devient fou dans l'imaginaire de Dumas et dans la légende aussi, parce qu'il a participé à la Saint-Barthélemy, parce qu'il aurait eu du sang de protestants sur lui et que ce sang l'aurait tellement marqué, traumatisé, que lui-même se serait mis à suer du sang. Hein, oui. C'est ce que montre Chéreau dans le film aussi. Et ce que Dumas montre, lui, c'est effectivement un Charles IX complètement imprévisible, capable de tirer à l'arquebuse sur un protestant depuis sa fenêtre. Hein, c'est ce que montre la pièce. Hein, il tire sur un protestant depuis sa fenêtre pour se soulager les nerfs un peu. Donc c'est un roi
quand on est un peu à cran.
À cran, on tire sur quelqu'un dans la rue. Donc là, ce Charles IX là, c'est un Charles IX fou dans la démence, hein, avec une mère machiavélique, avec des ennemis autour de lui, tous aussi mauvais les uns que les autres, et puis avec ce personnage de la Mole, hein, qui est le personnage un peu idéal, un petit peu que Dumas sauve par son sacrifice, par sa mort.
Alors quel est le personnage pour vous finalement le plus important? Est-ce que c'est la reine Margot ou est-ce que c'est justement un autre personnage que le personnage titre?
J'ai un faible pour Charles IX, hein, parce que ce pauvre roi Charles IXe, comme disait Montaigne, il est pathétique, hein, dans sa violence, dans son désespoir, et il est d'autant plus émouvant qu'il découvre que l'empoisonnement qui était prévu pour un autre, c'est lui qui le reçoit, puisque il feuillette le livre de chasse qui était destiné à Henri de Navarre, et c'est lui qui s'empoisonne. Donc c'est un roi tragique, et donc je trouve que c'est un des personnages le plus intéressant de la pièce, avec effectivement la reine Margot, qui est une jeune femme pleine d'autorité, pleine d'intelligence, hein. Donc ce sont des personnages intelligents, donc intéressants.
Et Catherine de Médicis
aussi, oui, aussi. On a les trois personnages importants pour moi, ce sont Catherine de Médicis, la reine Marguerite, la reine Margot et Charles IX. Oui. Donc le frère, la sœur et la mère, donc une histoire de famille, une histoire de sang familial.
Oui. Alors là aussi, évidemment, on pense qu'il y a une filiation avec la Tour de Nesle, avec peut-être même Henri III, dont on a parlé tout à l'heure. On sent qu'il y a quand même une veine qui est creusée là.
Oui, la veine historique et les violences de l'histoire. Ce qui intéresse Dumas aussi, comme ses contemporains d'ailleurs, c'est la représentation des violences de l'histoire. Que nous enseignent ces violences? À quoi renvoient-elles pour le public de 1847 ou 1832? Eh bien, on est quand même au siècle des révolutions. La terreur de 93 plane encore, hein. Il faut quand même comparer un petit peu les données chronologiques. 93, c'est juste 40 ans avant la reine Margot, donc c'est récent dans l'histoire collective. Donc les traumatismes collectifs de l'histoire se retrouvent dans le théâtre de Dumas. C'est un théâtre à la fois très personnel et en même temps qui s'adresse à tous, où chacun peut y retrouver l'histoire de son pays, avec les grandes ruptures climatériques qu'elles ont engendrées.
Pour terminer, Sylvain Léda, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre rapport personnel à Dumas, parce que vous avez quand même écrit une biographie, vous êtes aussi spécialiste de Musset, vous n'êtes pas uniquement spécialiste de Dumas, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement de vos premières lectures de lui, et finalement que vous a-t-il apporté dans votre vie?
Comme beaucoup d'adolescents, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo un été, et c'est un des livres pour lequel je me suis empêché de dormir pour le terminer. Donc d'abord, c'est une dévoration de lecteurs passionnés. J'ai lu Le Comte de Monte Cristo, Les Mousquetaires, la trilogie des Mousquetaires et les autres romans, et j'ai découvert le théâtre après, hein, en faisant ma thèse sur la mort dans le théâtre romantique. Donc en ayant choisi une thèse sur la mort dans le théâtre romantique, Dumas, c'était un terreau, un pain béni. Donc c'est d'abord un rapport de lecteur de romans. Et justement, je crois que les deux genres chez Dumas se nourrissent constamment.
Justement, on parle beaucoup du dialogue dans les romans de Dumas. Est-ce que ce sont des dialogues qui sont des dialogues de théâtre pour vous?
Certains dialogues de la reine Margot, par exemple, sont repris dans la version théâtrale. Donc, il y a une grande théâtralité dans les romans de Dumas. Il y a la mise en scène, l'arrivée de personnages, la caractérisation. Il y a presque des scènes d'exposition dans les romans de Dumas. La manière dont il introduit les personnages, dont il campe les décors, ce peuvent être des décors de théâtre. Donc je pense que le génie d'Alexandre Dumas, c'est justement cette porosité entre le genre dramatique et le genre romanesque. Et ce qui fait que son théâtre est très romanesque, l'action dramatique est une des qualités principales du génie créateur de Dumas.
C'est un théâtre du récit aussi.
C'est un théâtre du récit aussi. Je pense à une pièce moins connue qui s'appelle Le Comte Hermann, qui est une pièce de 1849, qui se termine par un très très long monologue, un soliloque d'un médecin qui s'empoisonne et qui observe sur lui les effets du poison. Et c'est un récit. D'un seul coup, le théâtre se transforme en une sorte de journal de ma mort quelques minutes avant la fin.
Merci beaucoup Sylvain Léda. Je rappelle que vous avez donc édité et préfacé de nombreuses pièces de Dumas comme celle dont on a parlé aujourd'hui, La Tour de Nesle, Henri III et sa cour, ça c'est chez Garnier Flammarion, ça date de 2016, mais également Kean dont on a parlé, c'est en folio, ou encore La Reine Margot chez Classique Garnier, ça date de 2015. Vous êtes également l'auteur d'une biographie de Dumas parue dans la collection Folio Biographie en 2014. Demain, la compagnie des auteurs continue. Nous parlons toujours d'Alexandre Dumas, mais cette fois avec celui qu'on appelle donc Monsieur Dumas, c'est son surnom. Il s'agit de Claude Schoepp et nous ferons avec lui un parcours de son œuvre romanesque. Mais tout de suite, on retrouve la poésie, de la poésie choisie et lue par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Comment commencer? C'est comment commencer ou comment commencer? Hier, je parlais de Bernard Lubat, l'homme de jazz, inventeur de ces paroles-là. Jean-Luc Steinmetz lui dit « commencement » dans le livre « Suite et fin ». Les multiples fins encouragent les perpétuels recommencements de la vie ou de l'écriture, nous dit son éditeur, le Castor Astral. Je n'ai l'air de rien. Le rien de l'air m'enveloppe. Je survole les présumés coupables. Juge à l'estime leur horizon de déraison. La meute à mes trousses, j'en dévie les erreurs, et l'instant même où les observateurs condamnent le seul poème que j'ai porté intact sous leurs yeux, avec une innocence qu'ils ne me reconnaissaient pas. Je compte en termes de siècles ce qu'il faudra pour qu'arrive à transparence le moindre de mes mots, le plus simple. Toujours dans commencement, à partir de quelques mots, je reprends pied. C'est comme un dernier germe de vie. Le regard tournant assure que ce qui doit venir se lèvera bientôt. La continuité des saisons, les feuilles arrachées à l'éphéméride, formes successives, bon gré mal gré. L'ensemble se refait, auquel je n'accède que par image. Le cours imprévu des choses monte sur ce treillis. À moi de placer mes pas, de poser mes mains et de saisir l'ambiguïté de la démarche humaine. Voilà ce qu'on appelle un travail de deuil communément. Mais dire sa récitation, sa fable, son automne, ses feuilles mortes, ses arbres tristes ou rêveurs, son beau tablier, sa belle envie, on peut alors s'emparer des souvenirs de la maison du temps de Lionel Ray, qui a écrit tant, tant de poésie. Enfance, c'est un chemin flanqué de feuilles, de grands éclats de ciel entre les branches, et le charme des foins, le luxe des javelles. Ici respire une enfance qui fut mienne, croyant suivre à la trace les passereaux gris ou bleus comme des chiffons improbables. On cherchait l'impossible, le soleil des lointains, on parlait aux peupliers, aux nuages, aux pierres, et la vie était simple comme un fruit familier. On écoutait la musique des arbres, le frisson des sources, la monodie des aubes, et le jour brûlait comme une flamme. Si peu nous importait la violence des orages et des adieux les mauvaises griffes de la mort, l'énigmatique silence d'outre-tombe, on vivait d'ombre provisoire et d'étonnement, la tête envahie de songes et de rossignols, on vivait de chevauchées brutales et d'azur. À cela, à souvenir de la maison du temps, Jean-Luc Steinmetz répond suite et fin. Vers la voix je vais en vers, n'entends rien que ce vers quoi je vais, ne perçoit qu'une rumeur d'où se détachent des semblants des succès d'années, et parfois, trouant le grésillement du silence, une bonne fois pour toute la réponse, puisqu'il y eut question dans l'illusion, se demander avec tendresse puis fureur pourquoi. Ne pas comprendre encore comment persiste ce qui détruit et fut détruit, ériger le bûcher où brûlent en flammes rêches tous les cahiers d'adoration.
Merci Jacques Bonafé, vous lisiez donc des poèmes de Jean-Luc Steinmetz.